RMC, Entre les poteaux,
Winnie Claret.
Salut tout le monde. D'abord, toute l'équipe d'Entre les poteaux vous souhaite de très joyeuses fêtes. On espère que la digestion n'est pas trop rude. Justement, on vous propose un épisode plus court cette semaine pour ne pas trop perturber la léthargie de Noël avant de rattaquer sur le réveillon du nouvel an. C'était la reprise du top 14 ce week-end. Après deux semaines européennes, 10e journée du championnat et un enseignement, un petit wagon s'est formé au bas du classement. Du promu Oyonnax au champion de France 2022 Montpellier en passant par Lyon et Perpignan. Tous le disent, ils jouent déjà le maintien. Pour en parler, on s'est tourné vers ceux qu'on trouve toujours au fond du bus, Nico Paolarsi. Salut Nico.
Salut Winnie, salut à tous. Et pardonnez-moi pour ma voix, hein. Ouais, c'est les chansons paillardes ça.
On se
c'est
doute bien que les fêtes étaient rudes pour toi aussi. Valentin Jamin, salut Val.
Salut tout le monde, dans le fond du bus mais au milieu, c'était la meilleure place généralement.
Et bon, bah voilà pour les enseignements. Ça, on en discutera dans un autre podcast, Entre les poteaux, épisode 191, mission maintien, c'est parti.
Très large succès pour les Catalans, 36-10. L'USAP qui s'impose, les hommes de Franck Azema qui font ce soir une grosse performance et qui en mettent presque 40 au Bayonnais.
C'est Yoram Moefana qui va laisser marquer le 6e essai girondin. Ça fait 44-10, on a franchi la barre des 40, ça fait lourd. Hein.
Ça commence à lourd, piquer hein. Très fort pour nos amis lyonnais là.
Avec le petit coup de pied par-dessus de Louis Lebrun, la défense de Komis Reynard qui pousse le ballon en touche et le CO rentrera 100 points de bonus défensif. Et voilà, les Montpellierains qui n'avaient plus connu le succès depuis la première journée s'impose cet après-midi contre le CO. Victoire qui comptera probablement bien dans sûr cette saison pour les Montpellierains. 30-21.
La fin du match qui se termine sur 66 pour le Racing, 10 pour Oyonnax, 10 essais à 1 juste après le buzzer. Voilà un match quand même assez fou, même s'il était couru d'avance une fois la deuxième mi-temps commencée. Et on commence par cette question. Et elle est très importante. Patrice Collazo est-il le Tom Cruise du MHR ? Va-t-il réussir la mission impossible de relancer Montpellier après un début de saison, on va le dire très clairement, catastrophique ? Messieurs, je vous propose tout de suite de répondre à cette question par oui ou par non. Est-ce que Patrice Collazo est le Tom Cruise du MHR ? Val ?
J'ai envie d'y croire, donc oui.
Nicolas Paolarsi.
Mais qu'est-ce qu'on entend par Tom Cruise ?
Le physique.
D'abord le physique, ensuite la capacité à redresser cette équipe.
Non mais oui et non. Je vais modérer.
Ok. Je alors, pense. On va pouvoir creuser. D'abord, revenons peut-être sur ce match de samedi entre le MHR et Castres. Victoire tant attendue des Montpellierains, 30-21 face à Castres pour cette 10e journée du top 14. On a eu 3 essais hein, du côté de Montpellier, de Yann Serfontaine, de Marco Tolaine, d'Arthur Vincent. Je vous propose tout de suite d'écouter le nouveau manager justement du MHR, Patrice Collazo, sur la victoire.
Très content pour les joueurs, très content de ce qu'ils ont montré sur le terrain quand on les voit dans le vestiaire. 4 mois et demi sans gagner, content pour le staff. J'ai une pensée pour tous ces gens qui œuvrent. Dans la symbolique, il y a beaucoup de choses. Il y a une belle première mi-temps avec une grosse pression qu'on met sur Castres.
Voilà, le discours presque émouvant hein, du nouveau manager du MHR. En même temps, il faut dire, hein, Valentin, que Montpellier était en plein marasme en fait, depuis le début de saison.
125 jours sans gagner en top 14. Voilà ouais. De quoi sortait le MHR. Ça fait 4 mois, ça fait 8 matchs de championnat et une place donc de lanterne rouge. En plus, il y avait de la pression parce que juste la veille, Perpignan avait gagné. C'est pour ça qu'on a vu ces scènes de joie. Un président sur la pelouse, heureux, Moed Altrat pour le MHR. Donc enfin, un succès en championnat pour ce nouveau staff aussi mené par Patrice Collazo qui avait d'abord perdu à domicile contre Oyonnax et à Bayonne, un staff où on n'a plus aujourd'hui aucun membre de l'équipe championne de France en 2022. Philippe Saint-André est parti, le manager de l'époque Richard Coquerel de ce début de saison a également été remercié. Sont arrivés donc Bernard Laporte, nouveau directeur du rugby à Montpellier, Patrice Collazo qu'on vient d'entendre, le manager, Vincent Etcheto en charge des trois quarts, Christian Labitte et Antoine Battu pour les avants. Et une dynamique semble en tout cas s'être créée, une équipe plus efficace offensivement ces derniers temps, avec 2 victoires aussi en Coupe d'Europe hein, avant ce succès en championnat. Ça fait donc 3 victoires toutes compétitions confondues pour des Montpelliérains qui ont rendez-vous à Lyon pour le prochain match. Rendez-vous, on va pas dire décisif pour le maintien, mais très important parce que Lyon n'est que 5 points devant le MHR.
Ouais, c'est serré autant dans le top 6 qu'en bas de classement. Nicolas Paolarsi, toi tu disais oui et non. Est-ce que Patrice Collazo peut redresser cette équipe du MHR quand on regarde le match qu'ils ont fait, le bras de fer face à Castres remporté justement par Montpellier? Qu'est-ce qui te fait douter ou voilà, qu'est-ce qui t'inspire quand
non,
même
mais en
une
fait,
réserve
enfin... En fait, c'est pas que je doute. Patrice Collazon, on connaît ses capacités en tant que coach, même s'il a eu deux expériences à Toulon et à Brive qui sont mitigées.
Pas très bien en termes,
mais à La Rochelle, ça a été le vrai bâtisseur du club. Donc c'est quelqu'un en plus qui est dans l'affect, dans l'humain, qui peut être très clivant au niveau de ses joueurs, mais c'est quelqu'un qui amène des choses dans un groupe, quelqu'un qui a connu le très haut niveau. Donc pour ça, oui. Après, je pense que surtout la prise de conscience, et on l'a vu ce week-end, c'est que Montpellier, sur le papier, est capable de battre tout le monde. Ce qu'a réussi à faire Patrice Collazon, Lazo, Bernard Laporte et tout le staff montpelliérain, c'est redonner un peu de positif à ces joueurs-là, leur refaire prendre conscience de leur qualité. Et ça, je trouve que c'est super important. Et sur la physionomie de la victoire contre Castres, ce qui est ultra positif pour la fin de saison, c'est qu'on a vu des gens capables, des montpelliérains, des joueurs capables de s'arc-bouter en défense, d'être ensemble, de ne pas rompre, de ne pas céder. Et derrière, on a vu des joueurs, je pense à Arthur Vincent, je pense à Serfontaine, la paire de centres, qui sont des tauliers, qui ont été capables de performer, de retrouver du talent.
Ouais, c'est ça, se lâcher aussi un peu.
Voilà, c'est ça. Si Montpellier rejoue à son niveau, au niveau mental, et réussit à basculer dans le positif, ce qui est en train de se passer, vu qu'ils ont gagné 3 matchs d'affilée, je vois pas pourquoi cette équipe-là ne se sauverait pas quand on voit le potentiel de ce groupe.
Ouais, effectivement. Et il y en a un, tu le citais, hein, Valentin, qui est peut-être à retenir, notamment dans le jeu du MHR, c'est Vincent Etcheto qui est arrivé coach de l'attaque après son expérience notamment à l'Aviron Bayonnais. Toi, Nico, évidemment, hein, Vincent Etcheto, ça sonne aux oreilles de tout amateur de rugby. Est-ce qu'on se dit aussi que c'est un coach du genre dont on avait besoin pour donner un petit peu plus d'allant à cette attaque? On les sentait complètement bridés sous le mandat de Richard Cockerill, qui n'a pas duré très longtemps. Cette match,
c'est l'opposé, je pense. Ouais. Enfin, en tout cas, dans le profil, c'est l'opposé. Après, je ne sais pas comment était Richard Cockerill au contact des joueurs, mais voilà.
Vincent Visiblement Etcheto, très strict, c'est... en tout cas. Il voilà. voulait qu'on respecte exactement les plans de jeu.
Vincent Etcheto, c'est le jeu à outrance, c'est la bonhomie, c'est la joie de vivre, c'est prendre du plaisir sur un terrain, c'est même être capable, et lui on le sait, être capable, c'est un fêtard. Vincent Etcheto, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un, c'est un épicurien. Ouais. Non, mais bien sûr que ça compte. Donc voilà, tu fais la comparaison avec Cockerill, c'est l'extrême inverse. Ouais. Moi je pense que c'est un coach, Vincent Etcheto, qui amène énormément de choses. Après, il a beaucoup bossé dans les clubs autour de Bordeaux, donc c'est quelqu'un qui amène énormément. Et en plus, techniquement, c'est un super entraîneur. Voilà. Il faut que la mayonnaise prenne aussi avec ce staff. J'ai l'impression, moi au début j'avais des doutes, je me disais Etcheto, Collazo, est-ce que ça peut matcher? Parce que Patrice Collazo a un côté très strict à vouloir tout maîtriser. Vincent Etcheto aussi, c'est quelqu'un de carré, mais différent. Et pour l'instant, ça prend. Donc ouais, moi je pense que c'est en tout cas dans le choix des entraîneurs, quand tu t'es loupé avec Richard Cockerill, je pense que penser à Vincent Etcheto, qui est l'extrême inverse, c'est intelligent.
Messieurs, je vous propose Valentin.
Non, j'allais juste dire, faut voir ce que disait Louis Carbonel après le match, qui a fait un 100% au pied. Alors, on sait qu'il avait une relation très compliquée avec Collazo à Toulon. Ouais. Et il a dit, en fait, quand je fais 100% au pied, c'est aussi parce que ça va mieux dans la tête, parce que je suis beaucoup plus libéré. Et lui semble vraiment coller avec ce que propose Vincent Etcheto. Donc, si Louis Carbonel, qui est quand même un joueur de grand talent, le dit et arrive lui aussi à lancer sa propre dynamique, ça va suivre, en fait. C'est un cercle vertueux qui risque de s'installer.
Et puis, quand tu vois la performance de Willemse, ce week-end, il a été encore monstrueux. Alors, il prend un carton jaune, mais sinon, il est monstrueux. T'as des mecs, t'as des internationaux qui retrouvent leur meilleur niveau. Et si ces gars-là, qui sont quand même top niveau, top 14, et au niveau international, retrouvent leur niveau, tu peux te dire que tu peux envisager la fin de saison un peu plus sereinement quand même côté Montpellier.
Allez, on va passer tout de suite à Perpignan parce qu'on vous l'a promis, un épisode plus court aujourd'hui. Perpignan 13e, donc on a Montpellier en bas de classement, 14e, dernier. Perpignan 13e. Avec une question, la méthode Azema commence-t-elle à infuser? Voilà, c'est l'autre lumière au bout du tunnel du week-end dans la victoire à Perpignan à Aimé Giral. 36-10 contre l'Aviron Bayonnais. 6-1, victoire autoritaire en plein vent. L'USAP qui doit beaucoup à son paquet d'avant ce week-end, mais aussi à son ailier anglais, Ali Crossdale, qui a semé la zizanie dans les rangs basques pour ceux qui ont vu le match. Je vous propose d'écouter tout de suite le manager Franck Azema.
C'est un match dense quand même, on a été plutôt consistant de bout en bout. On a réussi à mettre les choses en place, savoir maîtriser le fait de jouer contre le vent et avec le vent. C'est pas un match parfait, mais c'est un match abouti et on a la consistance de bout en bout, ça c'est important. On est sous pression en permanence, on le sera toute la saison.
Voilà, Franck Azema qui le reconnaît, hein, y a une vraie pression par rapport à cette course au maintien. Perpignan déjà, messieurs, est-ce qu'on s'attendait à ce que l'USAP soit en bas de classement? Est-ce que c'est plutôt logique? Est-ce que ça vous interpelle quand on annonçait justement l'arrivée de Franck Azema? On se disait peut-être que c'était un renouveau, même si, bon bah voilà, Patrick Arletta, c'est aussi un énorme coach qui d'ailleurs est parti rejoindre les rangs de Fabien Galthié au 15 de France pour coacher l'attaque. Mais voilà, Franck Azema, on se disait c'est une page tournée. Mais voilà, ils sont encore en bas de classement. Nico, ça t'étonne, toi ?
Non, ça m'étonne pas. Bah non, non, Perpignan, ça joue plutôt le bas de tableau, même s'il y a eu une augmentation de budget. T'es pas sur un effectif capable de matcher toutes les semaines à 150%. Tu sais que du côté de Perpignan, si tu perds un, deux, trois leaders sur blessure, c'est un peu plus compliqué. Par contre, voilà, cette victoire, elle est ultra impressionnante parce qu'il y a des joueurs qui montent vraiment en température, en pression, qui sont en train de s'affirmer. Tu parlais de Crosdale. Ouais. Moi, je pense surtout à Pozzolo Tuilagi, au deuxième ligne, qui a fait un match monstrueux contre Bayonne.
Il était un peu dans un creux de la vague sur les dernières rencontres. Et puis finalement, il montre que oui, il est là et il est en train d'exploser. Quoi.
Et surtout qu'il enchaîne les minutes à son âge. Voilà. Ouais. Victoire peut-être à relativiser parce que n'oublions pas que Bayonne match sur deux tableaux cette année, que les Bayonnais jouent la Champions Cup et qu'ils ont laissé énormément d'énergie physique et d'influx nerveux dans ces matchs-là. Ouais. Malgré tout, Perpignan va matcher pour le maintien. C'est sûr qu'Azema il va apporter des choses. C'est sûr que pour répondre à ta question, la méthode Azema, oui, moi je pense que c'est bien sûr que Franck Azema correspond parfaitement à Perpignan. Il est de là-bas et donc il connaît ce club mieux que personne. C'est l'ADN du club, Franck Azema. Donc méfions-nous de Perpignan. Maintenant, je pense ne pas me tromper en disant que les Perpignanais vont jouer le maintien jusqu'en fin de saison. Ils vont lutter pour ça.
Justement, Valentin, une équipe qui est menée par un coach comme Franck Azema, qui fait partie quand même de ces coachs phares du championnat de France, ça donne quand même plutôt confiance. On a cette envie de voir comment va vraiment infuser sa méthode à lui dans une équipe comme celle de l'USAP.
Oui, bien sûr, c'est important effectivement, comme le disait Nico, parce qu'il connaît l'environnement, parce qu'il connaît l'équipe, parce qu'il va coacher cette équipe avec les tripes. Après, forcément, ça prend du temps. On est sur une équipe qui, comme Oyonnax, même si Oyonnax est un petit peu plus haut, très légèrement plus haut dans le classement, est censé jouer le maintien, est censé peut-être trembler jusqu'à la dernière journée. Donc la méthode devrait infuser parce que Franck Azema, c'est un grand coach, parce qu'il est de là-bas. Après, c'est normal que ça prenne du temps. C'est pas choquant de les retrouver là aujourd'hui. Ça va se passer sur des matchs comme là, avec le bonus offensif à domicile. Ça passe ce genre de saison par des victoires à domicile, un gros, gros bilan à domicile. Pour le moment, ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs pour Perpignan, mais il va falloir
Imprenable. Je crois qu'ils ont perdu qu'un match à domicile.
Voilà, ça a été plus dur à l'extérieur récemment, mais je regardais le calendrier. Bon, Toulouse, l'UBB, le Stade Rochelais et le Racing. Donc, c'est pas évident forcément de gagner sur ces pelouses-là. Donc, il faudra continuer ce genre de performance contre Bayonne qui, disons-le, est quand même assez catastrophique à l'extérieur aussi en ce moment. Ouais, donc, ça arrange.
Ce sera le révélateur, effectivement. C'est le bloc de match qui va suivre pour Perpi. Allez, on va passer à Lyon. Le Loup, 12e. Donc, on va remonter tout doucement la fin de ce classement de top 14. Le Loup, voilà, parce qu'il y a ceux qui se révèlent, qui relèvent la tête, et puis ceux qui s'enfoncent. Le Loup, qui a largement chuté face à l'UBB, en est un exemple. 46 à 10. Nico, tu peux évidemment nous en parler mieux que quiconque, puisque tu y étais, toi, à Chaban-Delmas. Bon, allez battre Bordeaux en ce moment, qui surfe sur le haut de la vague à Chaban-Delmas, c'était quasiment mission impossible.
Et bah, franchement, sur le papier, avant le match, je sais pas.
C'est vrai ?
Non, mais il y a beaucoup de blessés côté Lyon. Il y en avait une quinzaine avant le coup d'envoi. Après le coup d'envoi, tu dois en avoir 18. Mais il y avait du mieux quand même sur ce qu'ils avaient proposé en Coupe d'Europe, que ce soit à Bristol où ils perdent de 2 points seulement contre l'équipe type de Bristol, et à la maison contre les Stormers, si je ne dis pas de bêtises, ou les Bulls, je ne sais plus.
Attends,
j'ai un trou de mémoire là.
Tu mets le doute.
Mais en tout cas, ils restaient sur deux prestations plutôt convaincantes que les Lyonnais. Et ils y allaient pour faire un coup à Bordeaux face à des Bordelais qui enchaînaient. Donc, mission impossible, je pense pas. Et franchement, quand tu vois la physionomie de la première mi-temps, il y a 18 à 10 à la mi-temps parce que Taofi Fenois prend un jaune dans le temps additionnel de la première. Ils sont dans le match. Ils proposent pas grand-chose avec le ballon, les Lyonnais, mais ils sont là. Par contre, ce qui est ultra inquiétant pour moi, pour cette équipe, c'est déjà les réactions après le match. On y reviendra tout à l'heure. Je pense qu'on va écouter le manager Fabien Gégenbauer, mais c'est le discours, il fait un peu flipper. Et puis qu'à partir du moment où tu prends le rouge de Taofi Fenois, que tu vas jouer à la fin de match à 14, on voit des tas d'équipes maintenant dans le rugby moderne qui à 14 sont capables de tenir, vont perdre des matchs, mais sont capables de se resserrer, de proposer des choses. Ils se sont liquéfiés en deuxième mi-temps. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas été capables d'être vaillants dans les zones de ruck, de se souder en défense, de garder la tête haute, d'être dans des valeurs de combat qui font que cette équipe-là, elle doit matcher sur le top 6. Et c'est là où moi, ça commence à m'inquiéter quand même. Parce que même si l'UBB joue très bien en ce moment, c'était quand même une UBB qu'on avait fait un petit peu tourner. Lucu était sur le banc. Voilà, il y a certains joueurs à qui on avait redonné du temps de jeu. Voir les Lyonnais s'effondrer de la sorte en deuxième, attention, parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a Montpellier qui arrive ce week-end-là. Ouais. Et si tu en prends une contre Montpellier qui est dans la dynamique complètement inverse, tu peux te rendre cette saison très compliqué sur le papier parce qu'ils ne sont pas programmés pour jouer le maintien, nos amis du Loup.
Alors justement, juste pour revenir sur la Champions Cup, puisque tu l'évoquais, c'est bien face aux Blue Bulls hein, qui se sont imposés d'un point. 29 à 28 pour Lyon pour la deuxième
journée
de Champions
Cup. Donc il y avait du mieux, tu vois, il y avait du mieux sur cette Champions Cup. Ils se sont rassurés, mais derrière, tu prends une énorme claque à Bordeaux là.
Tout à fait. Bah, justement, le Loup en plus, Valentin, c'est ça qui est toujours étonnant dans le rugby, parce que quand on regarde d'une saison à l'autre, parfois on voit qu'on peut renverser la table complètement. Le Loup, 12e de top 14 là, après 10 journées cette saison, alors que la saison dernière, ils l'ont terminé 3e du championnat avant de caler leur débarrage face à l'UBB justement. C'est quand même assez impressionnant de voir à quel point on peut dégringoler comme ça dans le top 14 d'une saison à l'autre.
Mais c'est pour ça que Nico parlait de dire que cette équipe n'était pas programmée pour le maintien. Et c'est vrai que pour ça, il va quand même falloir faire attention, parce qu'on était plutôt sur un Loup sur une pente ascendante. Mmh. On joue des demi-finales de top 14. On essaie de se rapprocher éventuellement d'un titre, etc. Quand là, vous êtes dans cette situation à 5 points du dernier qui était Montpellier, qu'on avait complètement enterré, que vous êtes vraiment, on va dire, l'équipe sur la pente descendante, il y a une victoire sur les 6 derniers matchs de top 14. Il faut effectivement probablement s'inquiéter. Alors il y a Léo Berdeux qui va revenir, le demi d'ouverture qui était blessé, ça va peut-être leur faire du bien. Mmh. Ça c'est important, mais aussi attention à Jégène Bacher. Sa crédibilité, on va dire, c'était un garçon qu'on attendait peut-être pas forcément là tout de suite. Il a fait 2 ans en tant que manager à Grenoble. Voilà. Il était face à des Michael Checa, des Jono Gibbs. Est-ce que lui va réussir à tenir le cap alors qu'il est un petit peu tout neuf en top 14? Ça va être une des questions
après,
à se poser.
Après, les amis, est-ce que la saison dernière, elle n'est pas en trompe-l'œil? Parce que je vous rappelle quand même qu'en effet, ils vont chercher les barrages et tout ça, mais conflit interne entre Xavier Garbajosa...
Mais moi, j'ai envie de dire, malgré le conflit interne, ils arrivent quand même à se hisser
jusqu'au
barrage.
Oui, mais ça veut dire que tu galères. Ok, tu arrives à t'en sortir parce que tu as du talent, mais tu as des joueurs qui sont contre ton coach, tu as peut-être un groupe qui vit pas forcément bien. Alors moi, j'ai pas d'infos spécialement de l'intérieur.
Non, mais on en a eu un RMC Sport, effectivement.
Mais voilà, t'es sur un groupe qui vit pas très bien, t'arrives à aller chercher au forceps, au talent, parce que tu te donnes un objectif commun, aller chercher cette place en phase finale, mais là, ça peut plus durer comme ça. Et est-ce que ce groupe a été assaini? Est-ce que t'es reparti vraiment de zéro en début de saison? Tu peux te poser la question quand tu vois tout ce qui s'est passé la saison dernière. Après, quand même, à nuancer, je vous le disais tout à l'heure, ils ont plus d'une quinzaine de blessés. Ouais. Et quand tu vois le nom de certains blessés, ça peut quasiment te faire un 15 titulaire en top 14. Donc, quand ils vont rentrer des mecs, ça sera forcément un peu différent. En plus, mais c'est souvent comme ça dans une saison. Vous le savez très bien. Quand ça va mal sur le terrain, tu perds un ou deux matchs, les blessures s'enchaînent, il y a tout qui s'effondre. Et là, c'est exactement ça. Ils n'ont rien pour eux, les Lyonnais, en ce moment. C'est terrible.
Je vous propose, on ne va pas écouter Fabien Jeune-Bacher, parce qu'en fait, on a dit mot pour mot ce qu'il a conclu, c'est-à-dire que oui, clairement, on arrête de se cacher maintenant. On joue le maintien à Lyon, mais plutôt de passer à Oyonnax, 11e donc. C'est le dernier club sur lequel on voulait s'arrêter après cette 10e journée. Le promu, Oyonnax, qui a pris la correction de la saison. Hein. Pour l'instant, samedi après-midi au Racing 92, ils ont perdu 66 à 10 les Oyomènes en encaissant 10 essais, alors que les hommes de Joël Abd ont clairement fait douter les Racingmen hein, pendant les 35 premières minutes. On pouvait croire qu'ils allaient aller taper le premier du classement à la surprise générale. Mais voilà, il y a un certain Nolan Le Garec, le demi de mêlée du Racing, qui a sonné la fin de partie à la fin de la première mi-temps avec son doublé. Et puis, 2 cartons jaunes consécutifs du côté d'Oyonnax, les laissant pendant un temps, en tout cas, à 13 contre 15. Et puis là, ça a été le boulevard pour le Racing. Messieurs, un mot d'Oyonnax. Ce promu, c'est moins étonnant de le voir en bas de classement. On sait comme c'est dur de s'imposer en top 14 quand on vient de remonter. Mais voilà, les Oyomènes, on se disait que c'était quand même ce petit facteur X, cet outsider qui était capable de produire du beau jeu sur les pelouses extérieures. Est-ce que vous pensez qu'Oyonnax a les reins assez solides pour remonter, peut-être aller pas jusqu'au top 6, mais au moins dans le ventre mou, ou bien clairement elle a sa place, cette équipe en bas de classement, Nico?
Bon, top 6, ventre mou, je pense que déjà s'ils se maintiennent, ils seront très contents du côté d'Oyo. Moi, j'aime bien cette équipe. J'aime cette équipe, j'aime ce club. Ouais. J'aime son ADN, j'aime ce que les hommes de LAB de produisent sur le terrain. Je trouve que c'est intéressant. Alors, oui, là, tu l'as dit, tu prends une trempe. Bon, t'en prends 66 au Racing, dans un contexte particulier, dans une salle particulière, sur du synthétique. Tous les matchs vont pas se jouer dans ces configurations-là. Va falloir.
Après, le synthétique, c'est pas une excuse, ils jouent aussi sur synthétique à Oyonnax.
Oui,
donc.
Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que les conditions extérieures sont pas les mêmes.
Ouais, ouais.
va falloir aller se les payer là-bas, hein, les Oyomen. Mm-hmm. C'est une équipe qui a énormément de caractère. Donc là, tu en as pris 66. L'équipe qui se déplace là-bas la semaine prochaine, tu vois, je me dis, oula, attention. Mm-hmm. Non, franchement, après, ils sont carrément dans les clous. Ils sont 11e du top 14. Ils ont déjà gagné 4 matchs sur 10. Franchement, quand tu es un promu comme ça, que tu n'es pas armé comme les autres pour débuter cette saison de top 14 en termes de budget et en termes d'expérience à ce niveau-là, oui, bon, bah, il faut vite, très vite switcher après cette défaite-là. Moi, franchement, je ne suis pas sûr que cette défaite-là elle marque les esprits du côté d'Oyonnax. Bon, t'en as pris une grosse. Allez, next. Maintenant, on est à la maison et c'est terminé. Alors que la défaite de Lyon à Bordeaux, quand tu arrives sur une dynamique un peu plus positive et que tu te dis « Il faut qu'on aille chercher des points à l'extérieur, on est le loup », tu vois, je pense que ces deux défaites ne sont pas du tout les mêmes dans le mental de cette équipe.
Valentin, un mot aussi sur Oyonnax. Est-ce que pour toi, un promu, nécessairement, il doit d'abord batailler pour le maintien ou les Oyomen, ils te font... je pense qu'ils ont fait rêver pas mal de monde par le jeu qu'ils proposent, ces Oyomen. Est-ce que toi, tu te dis qu'ils ont les reins assez solides pour aller peut-être voir plus loin?
Honnêtement, je ne changerais pas une virgule à ce que vient de dire Nico. Déjà, ils sont, je pense, très contents d'être là où ils sont. Bravo, Nico.
Non, mais alors voilà, c'est rare qu'on ne t'écharpe pas sur ce plateau.
Mais milieu de tableau, tu bats clairement. Tu bats La Rochelle, tu bats Lyon, tu bats Montpellier. Tu n'es pas, pour l'instant, on va dire, inquiété par le maintien. Je vais aussi dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut gagner à domicile. Ouais. Pour l'instant, ils font très bien le taf.
Oyonnax, tu vas recevoir Pau, du coup, le week-end prochain pour le Boxing Day. D'ailleurs, ils vont ouvrir le bal vendredi soir à 19h.
Plus petit budget du top 14, tu reçois Pau, tu vas voilà, Pau, Perpignan, Bayonne les prochains matchs. Là, il faut prendre des points. Et puis, voilà, les gros matchs comme le Racing, t'en prends 66.
Mais la pression, elle n'est pas sur Rio, hein, ouais, quand tu vois ça. Le classement et tout ça. La pression, elle est sur les autres. Hein.
Mais on entendait justement au Racing, après le match, le troisième ligne, Loïc Credos, qui disait un match comme ça, ça ne sert à rien de le commenter maintenant, on l'efface de notre mémoire. On oublie. Ouais, en fait, ça ne sert à rien, on oublie. Next.
Non, mais en plus, tu le disais, t'as toujours du positif à retirer des matchs. Même quand on prend une, ils sont qu'à 14-3 à la mi-temps. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de rivaliser chez le leader du top 14 avec un Le Garec monstrueux en ce moment, tu le disais. Ouais. Et ils sont quand même là, tu vois. C'est pas comme si au bout de la 20e, tu sens que les gars, ils sont pas dans le match. Donc t'as quand même du positif à retirer de ce match-là.
Allez, messieurs, on va terminer par un coup d'œil aux autres matchs de cette 10e journée. On va pas se lancer dans un catalogue. Je vais juste vous demander s'il y a un match, une action, un joueur que vous retenez de ce week-end. On va commencer par toi, Valentin.
Eh ben moi, j'ai commenté Stade France à La Rochelle, donc je vais vous parler de ce match. Et du discours de Ronan O'Gara, le manager rochelais, juste après le match. Alors, ils perdent 2-5 points, 18-13 au Stade français. En plus, à 14, une grande partie du match parce que Danty a pris un rouge. Mais il avait l'air assez désemparé. Ils n'ont pas gagné à l'extérieur encore, La Rochelle. Et il s'est posé beaucoup de questions en conférence de presse. Il a dit que certains joueurs étaient en son France. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le plan de jeu? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce qu'on manque de travail en groupe? Est-ce que c'est les détails? Je me remets beaucoup en question. Donc, voilà, c'était un peu. Étonnant, on va dire, de voir Ronan O'Gara aussi désemparé. Intéressant aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que La Rochelle va recevoir Toulouse. Donc, j'ai hâte de voir la réaction rochelaise éventuelle à Marcel de Flandre.
La très, très grosse affiche réplique de la finale du Top 14 2023. Ce sera donc samedi soir pour le Boxing Day, la 11e journée de Top 14. Je rebondis avant de te donner la parole, Nico, parce que c'est justement sur ce match que moi, je retiens quelque chose qui m'a interpellée. C'est le carton rouge de Jonathan Danty qui a donné un vilain coup de crampon à Jérémy Ward, le centre du Stade français, alors qu'il était au sol, parce que Jérémy Ward essayait de lui maintenir le mollet pour l'empêcher de sortir d'un ruck. Bon, essuyer ses crampons sur le thorax ou presque la gorge de Jérémy Ward, évidemment, c'est inacceptable. Carton rouge, on n'a pas encore les dates de la future commission de discipline pour.
Il peut prendre cher, hein.
Mais il peut prendre très cher et ça pose beaucoup de questions. Pour un cadre notamment du 15 de France, alors qu'on approche à grands pas du tournoi Destination 2024. Voilà, ça pose beaucoup de questions. Il va falloir rester aux aguets. Évidemment, on vous tient au courant. Nico, dis-moi, toi, ce que tu retiens de ce week-end?
Bon, j'allais un peu parler aussi du rouge de Danty parce que pour moi, c'est symbolique de l'état de forme. Non, mais c'est symbolique, juste très court, mais sur ça, c'est symbolique de l'état de forme de La Rochelle, qui est jamais très loin de faire des performances et de basculer un peu le truc de son côté. Mais en ce moment, voilà, ça, justement, ça bascule pas, t'as pas le déclic. Et on est toujours dans l'attente du côté de La Rochelle, savoir comment va se terminer cette saison, parce que tu dis au bout d'un moment, quand tu flirtes autour de la victoire, mais t'as toujours un élément qui est contre toi, tu dis que ça peut être difficile. Ouais. Non, moi, je retiens deux trucs, c'est quand même encore la victoire de Pau. Qui est ultra solide contre Clermont à domicile ou à Meaux, mais voilà, victoire ultra solide, les Palois qui s'affirment face à une équipe de Clermont qui est très dure à jouer, c'est rugueux, c'est épais, donc voilà. Et puis encore une fois, le carton de l'UBB, parce qu'on a parlé de la déroute lyonnaise, mais l'UBB est là, remporte un nouveau match avec le bonus, s'installe dans le top 4 du top 14 et même en faisant un petit peu tourner. Donc, et puis toujours avec un niveau de jeu ultra plaisant, des essais en première main. Et là, en plus, ils ont su châtier les Lyonnais devant. C'est vrai qu'on avait fait entre les poteaux il y a une semaine ou deux où on se questionnait sur le niveau des avants de l'Union Bordeaux-Bègles. Mmh. Là, ils ont répondu présent. Donc voilà, l'UBB et Pau qui continuent sur leur bonne dynamique du moment.
Allez, merci messieurs, on se quitte là-dessus les poteaux. Merci donc à vous deux, Valentin Jamin, Nico Paolarsi, à très vite. Merci aussi à Najib Boulaouine à la production et à Yann Ozaman à la réalisation. Reprenez des forces pour ce qui arrive, parce qu'avant de faire le décompte jusqu'à l'année 2024, on va enchaîner 3 jours de fête sur les terrains de rugby pour le Boxing Day, 11e journée de Top 14, les 29-30, 31 décembre. Et on va suivre notamment les Bordelais et Damien Penaud qui sera de retour dans son ancien antre de Clermont pour Clermont UBB vendredi. Tout le reste, c'est sur RMC. On débriefe tout au prochain épisode, c'est promis, salut !